Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'économiste François de Coincy. Bonjour François de Coincy.
Bonjour.
Vous venez de publier Cette idée libérale, préfacée par l'entrepreneur Alain Sueur. François de Coincy, on vous a connu avec un premier livre qui avait bien marché, qui avait fait beaucoup de bruit, c'était Mozart. S'est-il contenté de naître? On en a parlé il y a quelques années. Là, cette fois-ci, à l'approche de l'élection présidentielle, eh bien, vous avancez des idées. C'est vrai que vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier non plus. À chaque élection présidentielle, il y a toujours des économistes, des gens qui publient des livres. Et puis on voit bien que les politiques, ça ne semble pas vraiment les intéresser. Ce qui compte pour eux, c'est d'être élus en faisant le moins de vagues possible, le plus de promesses qui pourront éviter de tenir et puis être réélus dans 5 ans, c'est sans qu'il y ait trop de manifestants dans les rues. Et ainsi va la vie depuis, j'allais dire, depuis Chirac.
Ou peut-être depuis qu'il y a des élections démocratiques.
Voilà. C'est pas déprimant, ça, comme tableau?
Ça fait partie de la vie, c'est ce qu'on rencontre tous les jours. Je veux dire, il y a en même temps... je dirais la raison, l'analyse des choses, et en même temps aussi la passion qui fait que la rencontre des deux est toujours un petit peu compliquée, et peut décevoir les uns comme les autres d'ailleurs.
On va revenir sur ces propositions, parce que là, il y a vraiment des choses intéressantes. D'abord, le produit social. Alors ça, c'est nouveau.
Alors oui, le produit social, c'est au départ un constat qui est que il y a beaucoup de gens dans notre société dont les capacités productives sont pas très élevées par peut-être manque de capacité humaine, mais peut-être aussi manque de formation. Et ces gens-là, dans le système global où nous sommes, confrontés à la compétition mondiale, eh ben, leur travail ne peut pas être, je dirais, compétitif. Et donc, les entreprises ne peuvent pas les embaucher, elles peuvent pas les embaucher parce qu'elles perdraient de l'argent en les embauchant. Et donc, l'idée, c'est de faire pour les entreprises qui sont dans la compétition mondiale, c'est-à-dire celles qui ne sont pas, je dirais, les entreprises d'État ou des entreprises qui bénéficient de privilèges, pour celles-là qui sont soumises à la concurrence, faire le contraire d'une charge sociale, une charge sociale négative, qu'on appellerait produit social, et qui permettrait de diminuer le coût du travail de ces gens et donc de les employer avec profit par les entreprises. À partir du moment où le coût de leur travail baisserait, je dirais, les entreprises auront tout intérêt à les embaucher plutôt qu'à les sous-traiter à l'étranger ou tout simplement ne plus fabriquer en France et importer leurs produits. Donc, globalement, c'est une charge sociale négative.
Est-ce aussi un système pour éviter, en quelque sorte, la robotisation, la mécanisation? J'avais envie de vous dire que je pense à la RATP qui pourrait recruter à nouveau des poinçonneurs de métro grâce à cette idée de charge sociale négative.
Oui, alors là, ça serait peut-être tombé dans l'excès inverse. Je pense que tout ce qui est possible de faire à l'heure actuelle, où le maximum de choses, grâce à la mécanisation, grâce à la robotisation, tout ça, il y a des gens qui l'essayent, il y a des gens qui ont des idées, ça marche ou ça suffit pas. Et de plus, on a bien vu en plus que toute cette affaire robotisation, ça servait surtout ça supprimait surtout des emplois qui n'étaient pas très intéressants. Je veux dire, c'est pas en redonnant des poinçonneurs du métro, ça va pas redonner le goût du travail aux gens. C'est pas quelque chose vraiment très intéressant. Il vaut mieux avoir une automatisation des choses. Par contre, si c'est pour renforcer un certain nombre d'emplois qui, eux, permettent à chacun de s'exprimer, des emplois qui sont plus artisanaux, souvent manuels, souvent des emplois du type agricole, par exemple, qui sont dans lesquels les gens peuvent tout à fait s'exprimer, là, ça devient intéressant.
Ça veut dire que, finalement, derrière cette idée de charge sociale négative, tout ce qui est cotisation patronale, sociale et une partie du salaire est directement pris en charge par l'État.
Oui, c'est pas tout à fait l'esprit, parce que les cotisations sociales, tout ça, elles sont indispensables. Si on les supprime, si on s'y supprime directement, il y aura un problème d'équilibre des régimes. Donc, je dis, en même temps qu'il faudrait continuer à avoir des cotisations sociales, il faut bien prévoir les retraites, il faut bien cotiser à une assurance maladie. Et donc, plutôt que de réduire toutes ces cotisations qui finalement mettent à mal les régimes après, il vaut mieux qu'il y ait une allocation une allocation globale de l'État qui permette justement de payer ces cotisations.
L'autre idée que vous avancez dans votre livre, François de Coisy, c'est les comptes bancaires sécurisés. C'est quelque chose, vous dites, qui a déjà été suggéré par Maurice Allais, prix Nobel, consistant
Oui.
à ce que les dépôts non rémunérés des clients des banques soient considérés comme faits à la Banque de France. Ce qui signifie que quelqu'un qui nous écoute, par exemple, en ce moment, qui a 1 000 euros sur son compte bancaire, eh bien, techniquement, de façon informatique, la banque centrale considère qu'elle a ses 1 000 euros chez elle. Donc, est-ce que l'on ne désendette pas comptablement l'État et artificiellement?
Non, je pense pas qu'il y ait un rapport de ça ne le désendette pas, c'est en
J'ai dit
dehors
comptablement.
parce que non, même pas, je pense que le fait de faire ça, actuellement, vous savez que les banques centrales sont complètement déconnectées des comptes de l'État, en théorie, hein, parce que en pratique,
En théorie, en théorie.
c'est quand même les banques centrales qui, par un biais anormal d'ailleurs que je critique, refinancent les comptes de l'État. Mais sur le plan des comptes, ils sont complètement séparés. Et donc ça ne changera rien aux comptes de l'État. Par contre, ça modifierait beaucoup la philosophie. Au niveau des comptes bancaires. D'abord, les comptes seraient complètement sécurisés, c'est-à-dire que ça serait sécurisé comme l'est un billet de banque. Quand vous avez un billet de banque, finalement, vous détenez une créance qui est directement sur le compte de la banque centrale. Et ben, le compte sécurisé, c'est la même chose, sauf que c'est pas le billet, c'est votre compte en banque qui est complètement sécurisé.
On poursuit, François de Coincy, vos propositions libérales pour redresser l'économie, mais avant de poursuivre, pourquoi les avoir qualifiées de libérales alors qu'elles ne sont pas forcément libérales sur le plan caricatural? Certaines sont même parfois, on pourrait les qualifier d'assez étatistes, limite gaullistes, limite gaulliennes.
Oui, tout dépend ce qu'on a. Là, il y a un problème de définition de ce qu'on appelle libéral. Dans mon esprit, libéral, ça veut dire qu'on fait appel à la responsabilité de chacun. Ça n'empêche pas les règles. Ce qui est important dans les règles, c'est qu'elles soient faites dans un esprit de liberté. Et c'est ça qui est très compliqué, hein, parce qu'une règle, par définition, si on pousse les règles trop loin, automatiquement, on va limiter les libertés. Et donc, l'art de la politique libérale est très difficile, puisque c'est un équilibre à trouver. Mais ce qui reste en fond, c'est qu'on considère que les individus sont des responsables et on fait appel à la responsabilité plutôt qu'à la directivité d'un pouvoir central.
Alors, on va changer de sujet. On parle d'éducation nationale. Vous dénoncez ce monolithisme de l'éducation nationale qui ne lui permet pas d'évoluer. Et vous proposez de dégager, de déléguer cette éducation aux régions pour libérer les innovations et ainsi faciliter la concurrence. Est-ce qu'on ne risque pas, là, dans cette grande crainte de l'État que l'on a, l'État fort, l'État va craindre une sorte de séparatisme finalement?
Oui, en fait, on est en face de quelque chose qu'on n'arrive plus à faire évoluer. Hein. On est devant un système où je pense que beaucoup d'hommes politiques ont essayé de faire bouger les choses. Et il y a un mal fou à le faire parce que moi, je pense que l'analyse en est tout est centralisé, que d'une manière décentralisée, personne ne peut prendre de décision forte et que tout s'applique d'un seul coup, tout doit s'appliquer d'un seul coup tout au pays, à tout le pays en entier. Alors que si on avait un système où finalement Certains pourraient expérimenter d'autres choses, commencer à faire avoir une autre vision. Une région pourra faire une éducation légèrement différente ou plus ouverte ou moins ouverte. Hein. Il pourrait y avoir, ça serait libérer finalement la capacité politique des régions en disant chaque région finalement prendrait en charge l'éducation de sa région et ceci permettrait de faire émerger des initiatives nouvelles.
Vous parlez bien hein, du programme scolaire. Est-ce que il faudrait quand même maintenir une sorte de tronc commun ou de cahier des charges commun?
Alors, peut-être que le rôle de l'État pourrait être d'avoir un cahier des charges plus général, mais ça commence là déjà, on sent la méfiance du pouvoir central vis-à-vis de pouvoir. Les gens se sont plaints de ce que les élections régionales n'avaient intéressé personne, mais il y avait une raison, c'est que les régions, finalement, n'ont aucun pouvoir politique. Elles se contentent d'appliquer des choses. Si on déléguait aux régions un réel pouvoir en leur disant eh ben vous faites au mieux, vous êtes responsable devant vos électeurs hein, de ce que vous allez faire, il faut pas avoir peur de leur déléguer des programmes, oui. La capacité d'embaucher des
alors je vais prendre un exemple, François de Coincy, je vous prends un exemple, imaginez un président de région qui serait une culture issue d'une culture woke, wokisme, voilà, tel le maire de Lyon ou le maire de Bordeaux, voilà, ces gens deviennent présidents de région. Oui. Vous doutez bien que tout ce qui va être appris à nos enfants pendant ce temps du mandat régional, ils peuvent bouleverser complètement leur éducation et sacrifier évidemment des enfants et des familles qui n'y sont pour rien.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a, ça sera un moindre risque que celui de sacrifier toute une nation, toute l'éducation d'une nation, comme on l'a fait à un moment donné en essayant de faire apprendre la lecture aux enfants avec des méthodes qui étaient peut-être pas les plus efficaces
et qui sont toujours appliquées avec des gens qui font des fautes d'orthographe. Vous avez raison à chaque mot. Oui.
Ça mettrait au contraire bien en face une région qui a une méthode absurde, etc., dont les résultats sont pas bons, on va finir par être obligé d'abandonner parce qu'on verra que les autres, ça marche mieux.
Oui, vous avez bien répondu. Vous avez bien répondu. Oui, et puis mon exemple, hein, quand je parlais de la culture woke, d'un président de région, ça pourrait être aussi un président de région d'extrême droite qui pourrait changer les manuels scolaires et dire avoir des manuels à la gloire de tel ou tel dictateur, hein, aussi. Voilà, on peut prendre tous les exemples.
Oui, on peut prendre là l'exemple est plus difficile parce que je veux dire changer les manuels d'histoire, je pense qu'il y aurait des mouvements de protestation gigantesques et que nous sommes quand même encore dans un système où il y a des capacités de réaction à certaines choses. Mais ce que vous dites n'est pas absurde. Les risques d'un côté et de l'autre, ils existent. Mais il vaut mieux être confronté d'une manière petite et dispersée que globalement, tout d'un coup, on se retrouve avec une culture woke au niveau national.
L'économiste François de Coincy publie son nouveau livre qui est préfacé par Alain Sueur, « Cette idée libérale pour redresser notre économie ». Moi, ce que j'ai trouvé qui est le plus intéressant dans toutes vos démarches, dans toutes ces propositions, notamment, c'est ce qui concerne l'écologie, avec cette volonté d'en sortir avec les contraintes de l'écologie punitive. Vous avez réfléchi, vous avez trouvé ce qui n'est proposé par aucun politique actuellement, eh bien, la monétarisation du carbone, ce qui laisse un choix aux acteurs économiques en contrepartie d'une suppression de toutes les règles et punitions écologiques.
Oui, alors c'est je pousse au bout le raisonnement, mais la taxe carbone, c'est dans le fond la taxe carbone que personne n'a véritablement voulu mettre en œuvre. Parce que en même temps.
Oui, mais en même temps, la taxe carbone, il y avait des punitions.
Oui, voilà. En même temps, elle était punitive et en même temps, elle était insuffisante parce que je veux dire que c'est pas avec. Donc, s'il y avait, les gens étaient irrités parce que d'un côté, on nous soumet à plein de règles et en même temps, il faut payer, quoi. Bon, à un moment donné, je crois qu'il faut avoir le courage de, si on veut absolument régler le problème. Et si on pense qu'il y a un vrai problème, il faut dire, ça va coûter tant et on fait payer aux gens et ensuite les gens décident de ce qu'ils font. Hein, simplement, ils payent les conséquences de leurs actes. S'ils préfèrent utiliser du fioul, eh ben, ça va leur coûter très cher, parce que voilà. S'ils préfèrent de l'électricité, s'ils préfèrent des panneaux solaires, ça leur coûtera moins cher. Et à ce moment-là, les choix se feront tout seul, sans qu'on soit obligé d'imposer des normes, trop de normes ou trop de règles, il y en aura toujours. Hein. Mais on préfère l'incitation que d'obliger les gens, que la direction quoi, des gens.
Est-ce que votre message aux politiques, c'est finalement aussi de leur dire « sortez de la punition et des coups de bâton »
C'est plutôt, oui, c'est aussi faites confiance, quoi. C'est le même, c'est la même chose.
Ou arrêter d'emmerder les Français pour être dans la
bon, il y a de ça, hein, malheureusement. C'est le désir d'emmerder, apparemment, n'est pas perdu.
Oui. Alors, vous publiez ces propositions. On a parlé de celles. Moi, comme je l'ai dit, hein, certaines sont vraiment très très novatrices. Après, vous restez, vous revenez sur l'investissement déductible. Bon, oui. Cette fois-ci, on va sur le long terme. Ce n'est pas vous faire offense, François de Croissy, que de dire là, on l'a déjà entendu, hein, ce genre de proposition. Qu'est-ce qui les bloque, nos politiques, là-dessus?
Je crois qu'ils comprennent pas comment une entreprise fonctionne, tout simplement. Hein? Parce qu'en fait, le principe va plus loin que le simple problème fiscal. Moi, j'en sors le problème fiscal parce que je pense que ça serait un moyen fort de pousser les entrepreneurs à investir plus, quoi. Et donc, je dis, en ce moment, on en aurait besoin. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que les gens comprennent pas très bien comment fonctionnent les entreprises et quelles sont les réelles motivations derrière. Et je pense que si on pousse le raisonnement, ça va plus loin que le problème fiscal. C'est presque un problème. Il faudrait remettre en cause notre système de comptabilité dans les entreprises, c'est-à-dire changer le modèle de résultat qu'on fait, qui est un résultat annuel, un résultat à court terme, alors qu'il faudrait avoir un mode de raisonnement sur l'investissement de long terme. Et cette approche fiscale débouche finalement sur une approche du résultat économique.
Ça va à l'encontre finalement de tout cet esprit actuellement. On est dans le zapping, on est dans l'instantanéité. On investit dans une entreprise en espérant pouvoir revendre le plus rapidement possible. Vous, ouais. Votre état d'esprit finalement, ce que vous défendez, c'est la bonne économie à la Francis Bouygues, à la Marcel Dassault.
Voilà, c'est le projet. Moi, on dit souvent, il y a beaucoup de gens qui disent, le profit, c'est ce qui fait marcher l'entreprise. Mais ça, c'est la vision des banquiers. C'est une vision financière pure, de gens qui s'occupent que d'argent. Regardez autour de vous, beaucoup d'entrepreneurs, ce qui leur intéresse, l'homme, ce n'est pas le profit, c'est vraiment leur entreprise, l'envie de faire des choses, de construire quelque chose. C'est pas le profit qui fait marcher. Le profit, c'est une espèce de contrainte financière, qui est obligé si on veut pas périr, hein. Mais c'est pas ça qui fait marcher la majorité des entrepreneurs dans ce pays.
Dans vos propositions, il y a aussi, François de Croissy, la libération ou libéralisation, si on veut, du marché monétaire, qui est considéré par certains comme une activité régalienne. Pour vous, ce n'est pas une activité régalienne. Que répondez-vous à ceux qui pourraient vous dire, François de Croissy, si vous en êtes là, vous serez presque demain pour la libération du marché de la défense avec des armées privées, presque.
Non, il y a une grosse différence parce que le marché, le système monétaire, ça nous concerne tous individuellement. C'est un système qui permet de donner du prix aux choses. C'est un système qui permet, qui comptabilise l'effort de chacun ou le travail de chacun. Et le fait de s'en servir pour des raisons politiques, c'est exactement comme on faisait de la fausse monnaie autrefois. Et c'est terriblement dévastateur. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne a été créée exprès pour éviter ce genre de dérive des États, c'est-à-dire pour enlever aux États la possibilité de faire de la fausse monnaie. Alors on est en train d'y revenir aujourd'hui pour des raisons, parce que beaucoup d'États finalement ont dérapé, n'arrivent pas à tenir leur budget. Alors on demande d'une manière très détournée à la Banque centrale finalement de refinancer les États en émettant de la monnaie, mais c'est quelque chose qui est extrêmement malsain, parce que il n'y a plus aucune limite à la capacité de dépense des États. Avant, si vous avez un banquier extérieur, vous pouvez pas inventer l'argent, vous êtes allé obligé de surveiller vos comptes, sinon il voudra plus vous prêter. Actuellement, les États, ils ont pas besoin de surveiller leurs comptes, de toute façon, il y a de l'argent.
Cette idée libérale pour redresser notre économie. Alors, tout ce que vous avancez ne figure actuellement dans aucun programme politique. Alors, je vais changer l'orientation de ma question. Je vais vous dire, qui est le moins éloigné actuellement de ce que vous proposez ?
Le moins éloigné, je pense que actuellement, d'abord, personne n'est rentré dans le sujet. Hein. On parle
de Covid ou bien d'immigration, voilà.
Et de Covid, voilà. Et on ne parle de plus rien d'autre. C'est un peu désespérant. Mais on n'en parle pas. Et j'ai l'impression malheureuse que les candidats vont essayer d'éviter de parler des sujets qui fâchent, parce que ce soit celui qui est au pouvoir ou que ce soit celui qui veut le remplacer, tous ils vont avoir d'énormes difficultés, ou celles bien sûr, hein, qui vont les remplacer, ils vont avoir tous la même difficulté, c'est une difficulté économique extrêmement difficile.
On a l'impression que ça nous passe par-dessus la tête là, c'est le dernier sujet qui est abordé, le dernier sujet.
Et on est devant c'est le problème le plus aujourd'hui probablement le plus important. On le traite par le petit bout de la lorgnette à mon avis, c'est-à-dire celui du pouvoir d'achat, mais qui a consisté pour les gens à dire aux Français, on va continuer à vous alimenter avec les pertes de l'État, avec le financement à l'infini de la BCE, mais aujourd'hui, ces problèmes ne sont pas soulevés. On peut espérer qu'ils seront soulevés quand même avant la fin, avant l'élection. Mais je trouve ça relativement inquiétant. Alors, qui est le plus proche, on va dire, de ces idées libérales ? Nous sommes probablement dans un monde qui n'est malheureusement pas très libéral, où la réflexion de la raison ne sort pas beaucoup et on est dans la passion, dans l'agitation. Ce que j'espère, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont envie d'avoir des réponses à ces questions, et j'espère que ce débat électoral va permettre quand même de les soulever.
Merci François de Coincy. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Mozart s'est-il contenté de naître. Vous êtes économiste et vous venez de publier Cette idée libérale pour redresser notre économie, qui est préfacé par Alain Sueur et c'est publié aux éditions L'Harmattan, livre de réflexion et de proposition que nous venons d'évoquer à la veille de cette élection présidentielle.
Je vous remercie beaucoup.
Merci François de Coincy.